Vous d'abord, avec Innoville Ripon, Rotillon, Valentin et Saint-François, vos parkings au cœur de Lausanne. Innoville.ch.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM.
Les meilleurs moments de l'émission.
Jusqu'à 13h, Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Le thème du jour, l'État est-il la bonne structure pour intervenir dans les problèmes liés aux fans de foot et de hockey? Notre invité, le chef du service des sports du canton de Vaud, Cédric Beauvais. Et sur le WhatsApp, vous d'abord, cette remarque de Sylvie. Je ne suis pas contre les ultras car c'est eux qui mettent l'ambiance au stade avec leur chant. Et ça, c'est super. C'est pourquoi je préfère aller au stade plutôt que regarder le match à la télé.
Ah voilà, bah c'est dit. Alors, on va en parler. Et surtout, je vous propose d'écouter un petit reportage qui a été effectué par nos collègues du Blic à l'époque, justement sur cette problématique des supporters et des fans.
Les Suisses sont parmi les pires supporters de foot en ce qui concerne le comportement et le fair-play. L'UEFA a dévoilé lundi le classement des Fair-play Awards de la saison 2024-2025 et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Suisses ne sont pas du tout dans les bons élèves. Non seulement la Suisse n'a gagné aucun prix dans aucune catégorie et en plus de ça, elle se retrouve 44e sur 50 pays pour le tableau lié au comportement de ses supporters.
Vous qui êtes une spécialiste de foot, Valérie, ça ne vous étonne pas que les Anglais soient premiers du classement?
Ah bah, les Anglais, parce qu'ils ont pris beaucoup de mesures pour éliminer les hooligans dans les stades dans un premier temps, mais surtout, c'est sévère quand même.
Ah, c'est très dur. Ouais.
Ou alors, le Servette et le Lausanne Sport se tiennent extrêmement bien.
Ouais.
Toute proportion.
On va dire ça. C'est extrêmement sévère. Et moi, c'est un peu l'image qu'on a dans les médias. Comme si, parce qu'il y a des exagérations ou bien des choses qui sont dans l'illégalité, on met tout le monde dans le paquet. Vous, en tant que chef du service des sports, vous arrivez à faire passer des messages pour dire que le sport, c'est positif?
Ah bah bien entendu, hein, c'est notre travail au quotidien. Et puis, vis-à-vis de ces clubs, quand on peut travailler avec eux, comme on le fait véritablement jour le jour, c'est d'aller sur le terrain, auprès de chaque club, pas uniquement les grands clubs comme le LS et le LHC, mais l'ensemble des clubs vaudois, par exemple, avec des mesures de prévention, avec des discussions, avec des référents, pour essayer d'éviter d'en arriver à ce qu'on peut constater parfois.
On a Claude André qui est au téléphone avec nous. Claude André, à qui évidemment nous allons demander ce qu'il pense de tout cela, Claude André.
Moi, ce que j'ai d'essentiel à dire, c'est que je trouve quand même offusquant, de plus en plus terrible quand même, ce qui se passe dans les milieux du sport et accompagné autour des stades, dans les trains de transport, dans les bus, de tout ça. À Pompéi, en 59, il y a eu le premier cas de hooliganisme reconnu dans l'arène. Visiblement, c'est pas de cette année, que, cette décennie que l'hooliganisme est venu. L'État, à mon avis, il a un moyen d'intervention. C'est dès le début de la scolarité. Il faut commencer déjà à former. Je crois que l'État doit intervenir beaucoup plus tôt. C'est l'État qui intervient au moment où il y a les casses de tous les côtés. C'est déjà trop tard.
Merci Claude André. Ben évidemment, prévention, vous venez de l'évoquer ce mot, mais prévention c'est important. Et comment on fait passer le message de prévention? Alors évidemment à l'école, on espère que les hooligans, c'est pas trop à l'école encore déjà, mais comment on fait passer le message en général du côté le sport? Alors on entendait tout à l'heure, on peut gagner, perdre.
Moi, je crois qu'à l'école, c'est un point d'entrée qui est extrêmement important, d'apprendre le respect, d'apprendre à se comporter en société, dans les matchs qu'on peut jouer durant une période d'éducation physique. Donc déjà là, le rôle des maîtres d'éducation physique est très important. Et puis après, à côté de ça, on a tout le sport dans les clubs, que ce soit, on parle de foot et de hockey, mais de tous les sports. Et comment je me comporte, comment les parents aussi se comportent. L'État est un partenaire, mais n'est de loin pas le seul. Et la famille est, par exemple, la première entité qui doit apprendre ses valeurs de respect. Et l'État va venir, par ses moyens, ensuite, aider à pouvoir canaliser ce genre de choses.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Alors, Jean-Marc.
Oui, alors je vous écoute. Je sens qu'il y a la pression sur mes épaules. Suis-je un ultra? Non, quand même.
Non, donc par contre, on remarque sur plusieurs messages, et notamment Benoît qui précise que oui, le unique hockey, c'est bien le deuxième sport en Suisse, Jean-Marc, mais derrière le foot et dans les sports d'équipe. Sinon, c'est la gymnastique, le tennis, le ski, l'alpinisme qui sont devant. Il y a d'autres messages. Donc,
alpinisme?
Bah oui, l'alpinisme. Ah bon. Après, je ne sais pas, vous pouvez peut-être faire une réunion.
Je vais appeler Benoît dans un moment, d'accord? Benoît, je vous appelle.
Voilà, donc il fallait être précis, nous l'avons été, merci Benoît.
079 844 00 77, nous vous attendons.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM.
Les meilleurs moments de l'émission.
Jusqu'à 13h, Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Le thème du jour, l'engagement des artistes est-il un plus? C'est Carlos Leal, chanteur, acteur et rappeur suisse, est notre invité.
Et vos messages sont venus pour la plupart d'artistes. C'est intéressant parce qu'on ouvre, hein, on ne sait pas. Mais quand les messages arrivent, souvent vous nous dites « voilà, je suis artiste ». Bénédicte, par exemple, dont on va écouter le message, est une chanteuse. Elle sort un album le 26 avril. Vous voyez, on est en plein dans son actualité. Elle sera à la fabrique Kuch-Turel les 25 et 26 avril. J'espère que j'ai dit juste Kuch-Turel. Hein, c'est à cause de Benjamin Kuch, c'est ça?
Oui, voilà. C'est lui.
Mais surtout, elle nous dit ce qu'elle pense de ce thème.
Alors moi, l'engagement d'une artiste, je suis engagée déjà en étant auteur, compositeur, interprète. Donc ça, c'est important pour moi de pouvoir exprimer mes émotions, exprimer mon vécu aussi à travers mes chansons, à travers mes propres textes. Donc pour moi, c'est déjà un engagement propre que je fais. Et mes chansons sont vraiment pour aider les gens. Donc c'est vrai que lorsque je donne un concert et puis qu'une personne à la fin du concert vient me voir en me disant « moi, cette chanson m'a parlé, m'a aidé, elle m'a... » Pour moi, j'ai tout gagné.
Alors ça, c'est bien sûr le retour que l'on peut avoir. Tout à l'heure, Carlos, tu parlais de journalisme urbain hein, pour la naissance du rap et du hip-hop avec Sens Unique. Mais alors comment est-ce que tu expliques dans un monde où c'est très formaté? On en parlait hors antenne, à la radio, vraiment, le format, c'est clair. On ne diffuse pas si c'est plus d'heures, on ne diffuse pas ce type de musique, etc. Dans toutes les radios, hein, quelles qu'elles soient, service public ou privé comme ici. Mm-hmm. Comment tu expliques le succès de Sens Unique qui n'était pas nécessairement formaté quand même au départ?
Non, pas forcément, mais je crois qu'on est arrivé à une époque où les gens avaient besoin de changement, puisqu'on était dans une époque où on baignait dans la musique rock depuis très longtemps, et la musique pop aussi déjà. Et le rap est arrivé un petit peu comme une énorme avalanche, évidemment, dans le monde de la musique. Et comme on était un petit peu les premiers sur place à faire du rap en français, ben, j'imagine qu'on est arrivé avec un vent de fraîcheur dont les jeunes avaient besoin. Je crois que les radios l'ont compris. Dans tout le pays et en France aussi, on était diffusé en France, en Allemagne, en Espagne. Je crois qu'ils l'ont compris et c'est pour ça qu'ils ont accepté de prendre Sens Unique dans leur programmation. Il faut savoir qu'aussi, on n'a jamais été complètement hardcore, c'était pas tellement notre chose. On n'a pas voulu imiter les Américains, on a voulu être un groupe de rap suisse. Donc les sujets qu'on abordait, c'était parfois des sujets globaux, universels et parfois des sujets locaux, mais jamais trop avec cette tendance à vouloir imiter le gangstérisme américain. On était qui on était.
Est-ce que l'utilisation de la langue française était une forme d'engagement?
Bien sûr. Ben, tout d'abord, écoute, le rap, c'est... Tout d'abord, il n'y a pas de personne qui interprète du rap si ce n'est pas lui qui l'a écrit. La personne qui interprète son rap, c'est lui qui l'a écrit. Et puis comme c'est quelque chose qui parle de ton environnement social, de ton quartier, de ta famille, de tes origines, eh ben forcément il faut le faire dans ta langue. Et moi je l'ai fait à l'époque en français et en espagnol, puisque je suis d'origine espagnole, mais il était hors de question d'essayer de le faire en anglais. Pourquoi? Puisque ça existe déjà, et puis puisque ce n'est pas ma langue d'origine.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Mais en même temps, c'est formaté, mais on a l'essentiel quand même. C'est ça
incroyable.
Qui est assez fou. Ce groupe est juste incroyable. Pink Floyd, avec un artiste très engagé aussi pour la Palestine, contre Trump et tout. Avant de se quitter, Carlos, je voudrais te faire écouter et faire écouter nos auditrices et nos auditeurs la réponse que les gens à Morges, puisque c'était à Morges que Sarah a fait le micro-trottoir, la Vox Populi, ont donné à cette question. Est-ce que vous êtes influencé ou vous pensez qu'on peut être influencé par les artistes?
Alors, si vous avez la capacité de réfléchir, d'analyser une situation, vous n'allez pas vous laisser influencer.
C'est à nous d'avoir un petit peu de jugeote et un petit peu de jugement. Mais là, c'est peut-être à l'école qu'on devrait faire un gros effort. Apprendre à trier les fake news et les autres et apprendre aussi à avoir soi-même une opinion qu'on peut défendre devant la classe, devant la maîtresse, avec courage si on ne pense pas comme tous les autres. Je pense qu'il faut aider les enfants
Je pense que l'apport d'un artiste peut différencier les avis, et peuvent être peut-être plus nuancés, etc. Mais ça peut apporter peut-être des pistes de réflexion.
Et il y aura encore quelques réflexions vendredi, parce qu'on vient de recevoir un message vocal, c'est un peu tard pour le diffuser, mais on vous le proposera vendredi dans notre récapitulatif. Merci Carlos Leal d'être venu. Merci. Et donc le studio c'est fini, il y a la tournée d'été qui commence.
Exactement,
avec les festivals.
Exactement, le 22 juillet avec 9 festivals. On tiendra au courant les gens, mais bon, les festivals, de toute façon, ça se remplit sans qu'on ait besoin de faire la promo. Ouais.
D'autant plus qu'il y a Gampel, quand même, qui est un des plus grands festivals européens.
Et on aura un ou deux titres qui sortiront avant ça.
Mm-hmm. Et on se réjouit de les écouter ici.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM.
Les meilleurs moments de l'émission.
Jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Les rencontres sur Internet sont-elles durables ou dangereuses? Avant de nous plonger dans la recherche de l'amour sur Internet, j'ai ouï dire que vous aviez planché sur la question, Sophie Vassutine.
Oui Valérie, au chapitre « Comment trouver l'amour des célibataires » privilégie toujours les rencontres dans la vraie vie. Et ce ne sont pas des célibataires qui sont lassés par les applications de rencontres comme Tinder, Bumble ou Happn. Je ne sais pas si vous connaissez.
Maintenant oui.
Mais des personnes de plus de 60 ans, elles croient toujours à l'amour et se sont prêtées au jeu du speed dating.
Parce qu'on assiste au phénomène du retour des rencontres à l'ancienne, entre guillemets.
Oui, et c'est pas pour déplaire aux 70 participants qui ont pris part au speed dating organisé au MAD l'année passée par l'association Pro Senectutevo avec Cœur 65+. Plusieurs d'entre eux m'avaient confié vouloir se redonner une chance. J'avais demandé à Nicole ce qui l'avait poussé à sauter le pas.
J'ai jamais été sur un site, sur Internet, ça j'ai jamais voulu. Et puis, on verra bien.
Et tous les 60+ m'avaient confié manquer d'occasion pour faire des rencontres. Un constat partagé par de nombreuses personnes aussi autour de moi. Dans ce contexte, les rencontres sur Internet, durables ou pas, sont sûrement autant de belles occasions à prendre tant qu'elles ne sont pas dangereuses, bien sûr. Mais ça, vous aurez l'occasion d'en débattre tout à l'heure.
Merci Sophie Vassutine.
Et on aura l'occasion de voir ce qu'en pensent celles et ceux qui nous écoutent. Donc vous, n'hésitez pas, 079 844 0077. Et nous sommes allés dans la rue, évidemment, pour poser cette double question sur les rencontres sur Internet.
Bah parce que c'est pas comme ça pour moi que je rencontre quelqu'un. Je crois que je fais partie de la vieille génération et puis moi j'ai besoin d'un corps.
Pas besoin, ma femme est fantastique et je l'ai rencontrée normalement. Ah oui, bien sûr que ça peut marcher. Ah ouais, après chacun son truc. Mon frère a rencontré son mari sur Internet, ils sont ensemble depuis 25 ans. Super.
Nous sommes là, nous sommes physicalisés, ma chère Valérie. On a une invitée aujourd'hui pour parler de tout ça, et pas n'importe quelle invitée. Il s'agit de Sandy Kaufman, qui est coach certifié, thérapeute psychocorporel spécialisé dans les relations amoureuses, auteur du livre, entre autres, « S'ouvrir à l'amour » et d'un podcast dont on parlera tout à l'heure. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le domaine de l'amour, si je peux me permettre cette expression ?
Ben, je suis simplement devenue le coach dans le domaine où j'ai le plus galéré personnellement. Pendant plus de 7 ans, j'ai répété le même schéma. C'était un schéma de trahison où à chaque fois, les personnes me quittaient pour une autre personne. Et donc, ben, forcément, quand on a un problème, on cherche des solutions. Et en faisant ce cheminement vis-à-vis de moi-même, en comprenant en fait ce qui influençait ma manière d'aimer, eh bien, ben, je me suis petit à petit formée à ça et maintenant j'ai l'honneur et le bonheur d'aider les personnes qui ont des difficultés, soit pour rencontrer la bonne personne ou dans la construction de leur relation.
On va s'intéresser avec vous évidemment à cette dimension Internet parce que c'est une dimension extrêmement importante. On va se poser cette question de la dangerosité mais aussi de la durabilité. C'est une question que vous vous êtes posée comme coach. Est-ce que c'est durable, pas durable? Ça, c'est différent d'une rencontre naturel ou normal, comme disait l'une des personnes interviewées.
Alors, une étude assez récente a montré que les personnes qui se rencontrent sur Internet durent en général plus longtemps et sont des relations plus épanouissantes, principalement parce que les personnes ont dû faire un choix peut-être un peu plus conscient et ils se sont peut-être moins laissés emporter par les corps, par l'attraction et par tous ces critères. Donc, c'est en effet un point positif des rencontres sur Internet.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Les rencontres sur Internet, durables ou dangereuses, en fait, vous en témoignez, durables d'un côté, dangereuses de l'autre, sur le WhatsApp, vous d'abord, avec notamment ce message qui dit qu'elle a rencontré quelqu'un il y a fort longtemps, alors fort longtemps, ça veut dire qu'ils sont restés ensemble 11 ans, 8 ans de vie commune, heureuse et amoureuse elle l'était, pendant que cet homme rencontré sur Internet, lui, continuait ses rencontres via les sites. Elle a réussi à s'en séparer. Mais ça a été pour le moins compliqué.
Alors Valérie, je vous raconte une petite histoire. J'allais faire mon Vox Populi, mon micro-trottoir, et il pleuvait, il faisait froid, c'était une catastrophe. Et j'ai vu un magasin qui vendait des spécialités valaisannes. Je me suis dit, tiens, ben, je vais me rentrer dans le magasin. J'avais mon micro LFM, et le patron me dit, qu'est-ce que vous faites là? Puis je lui raconte, il me dit, ah mais moi je veux témoigner, écoutez ce qu'il nous raconte. Hein.
Moi, je pense que le mieux, c'est quand même le visuel. Je pense que le mieux, c'est quand même ces sites de rencontres que tu vois en présentiel. Des dating, comme ça, dans des bistrots, dans des cafés ou dans des restaurants. Et puis que là, tu vois en présentiel, puis tu as 7 minutes pour convaincre l'autre, entre guillemets, d'éventuellement manger avec elle ou avec lui le reste de la soirée.
Voilà, on ne va pas épiloguer sur les chauves, évidemment, mais on vous remercie d'avoir participé à ce débat au 079 844 0077. Bonne journée à vous. Bonne journée, Valérie.
Vous d'abord. La parole est à vous sur LFM.
Les meilleurs moments de l'émission.
Jusqu'à 13h, Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Sur LFM et Carac 3, c'est vous d'abord, c'est jusqu'à 13h, réparer pour mieux consommer, oui ou non, c'est la question. Et notre invitée aujourd'hui est Diane Goller, responsable du terrain à la FRC, mais surtout particulièrement responsable du mouvement des faiseurs. On le rappelle à toute fin utile parce qu'on a exploré l'adresse. Justement, pour trouver toutes les adresses, c'est adresse@frc.ch.
Et puisqu'on en parle, dites-nous, c'est quoi un repère café ?
Alors, un repère café, c'est un événement éphémère gratuit où il y a des bénévoles qui savent réparer des objets, qui mettent leurs connaissances à disposition des visiteurs. Donc, les visiteurs viennent avec un objet cassé. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre aux visiteurs à réparer son objet. Donc, ils le réparent ensemble. Et voilà.
Alors, quand on fait quelque chose sur Instagram où on annonce qu'on va effectivement parler de réparer pour mieux consommer, il y a plein de messages qui arrivent en disant « Oh, moi, je fais partie d'un repair café, je fais ça, je fais ça. » Et du coup, ben voilà, quand il y a le père Richard qui lit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens en leur disant « Ben, vous voulez pas nous raconter ?» C'est le cas, par exemple, pour Loïc qui parle de ses motivations.
Oui, alors ben, moi, ce qui m'a motivé pour m'engager là, c'est surtout le côté écologique, en fait, et utile de réparer les objets, c'est-à-dire leur donner une deuxième vie pour éviter de les jeter. Moi, j'essaye de faire un maximum de mon côté. Du reste, j'entasse pas mal de choses dans ma cave qui sont des choses à réparer ou qui peuvent servir à réparer d'autres objets. Les vendeurs, parfois, ne nous simplifient pas la tâche en faisant des objets qui sont très compliqués à démonter.
Merci Loïc pour ce téléphone que nous avons eu. Alors, juste un mot quand même sur la difficulté aujourd'hui d'ouvrir les objets. Il faudra qu'on en parle tout à l'heure, mais on va d'abord écouter parce que ça, c'est quelque chose qui ressort dans plusieurs messages qu'on a reçus et puis dans cet échange avec Loïc, on le voit. On a reçu par exemple des messages, celui de Lilia qui fait partie d'un repère café.
Alors moi, je suis membre d'une association qui s'appelle Révo Repair, donc on répare des appareils en tout genre, électroménager, électronique. Moi, j'ai toujours été intéressée par ce domaine-là parce que depuis que je suis toute petite, j'adore démonter tout ce que je trouve pour voir comment c'est à l'intérieur. J'ai toujours eu un attrait pour ça. Pouvoir allier cette chose à me rendre utile pour les gens, bah, c'est génial.
Alors, c'est cet argument qui ressort le plus. Celui qui ressort à l'inverse, il faut qu'on en parle et qu'on l'évoque, c'est le coût. Parfois, ça coûte malheureusement plus cher de réparer que de racheter. Et en particulier dans le domaine des vêtements. Hein. On voit ça, c'est pas seulement parce qu'il y a les secondes mains, mais aussi parce que tout se vend des fois très bon marché, puis parfois très cher. Ça, c'est quelque chose que vous constatez. Le coût, parfois, ça peut retenir un peu.
Oui, alors c'est vrai que dans la réparation, malheureusement, autant au niveau politique, ben, il n'y a pas encore tous les instruments qui sont mis à disposition pour inciter les gens à réparer. Vraiment, parfois, la réparation d'un téléphone peut coûter plus cher que d'en acheter un neuf. Et ça, c'est une réalité, malheureusement, qu'on a et on essaie de combattre avec la FRC au niveau politique. Après, il y a aussi toute la notion de temps. C'est quand on est en Suisse, donc la main-d'œuvre est chère. Donc, pour financer une réparation d'un professionnel, ben, c'est des coûts qui sont élevés. Et donc, du coup, souvent, ben, en tout cas, ça arrive que la réparation ne soit pas, soit pas profitable. Alors après, c'est peut-être du coup aussi une opportunité parce que les Repair Café, ben, c'est bénévole. C'est un temps qui est illimité. Et donc, en fait, ça pourrait aussi être des endroits où on peut peut-être mettre plus de temps pour faire des réparations qui pourraient ne pas être rentables, mais quand même, in fine, réparer un objet, si c'est un objet qui tient à cœur la personne.
J'ai senti que vous aviez envie de nous dire tout ce qu'il faut faire pour que ça coûte moins cher. On en parle juste après.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Diane Goller, responsable du terrain à la FRC et du mouvement des faiseurs, était notre invitée pour ce thème « Réparer pour mieux consommer ». Et on le rappelle, hein, les bonnes adresses, donc pour ces faiseurs, c'est adresse au pluriel, .frc.ch, et vous aurez comme ça une vue de tous les réparateurs de toute la Suisse.
Ouais, quand on sait faire, et Diane sait faire pour nous aussi, pour celles et ceux qui regardaient la télévision, vous l'avez vu bouger dans tous les sens, c'était pour ça, pour nous aider effectivement sur Carac 3 à mettre cette application ou cette adresse internet sur notre écran d'accueil, et du coup on peut trouver effectivement toutes les bonnes adresses. Ben justement, comme dernier message, on a reçu pendant l'émission un message de cette dame qui nous parle d'une adresse à Vevey.
Ça s'appelle Couture et Bicyclette, c'est à Vevey. Et eux, ils sont vraiment spécialistes dans toutes les réparations des textiles de sport. Et effectivement, consommer mieux et consommer moins.
Voilà, alors que d'autres messages sont arrivés pour dire au lieu d'acheter, on pourrait aussi emprunter avec un site qui s'appelle pumpypump.ch. Voilà, toutes les méthodes sont possibles et grâce au plaidoyer de Diane Goller de la FRC, eh bien la tendance elle était à 60% pour la réparation pour mieux consommer et au terme de cette émission, elle est clairement entre 70 et 80. Pardon, 80, 70 et 80. Effectivement, merci beaucoup.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM.
Les meilleurs moments de l'émission.
Jusqu'à 13h, Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Êtes-vous pour ou contre instaurer un permis pour les trottinettes et les vélos électriques? C'est le thème de vous d'abord. Et notre invité est Marc-Édouard Schultes, ingénieur transport EPFL.
Plusieurs messages sont arrivés, dont des messages vocaux qui disent en substance « Oui, mais avant le permis, il faudrait qu'on rétablisse une forme de respect. » Et tout à l'heure, on va en parler avec Marc-Édouard. Pas nécessairement du respect, mais de ce qu'on peut mettre ensemble, de ce que l'on appelle aujourd'hui les conflits d'usage. Parce que je crois que c'est ce qui ressort le plus des messages entre les gens qui sont piétons, les gens qui sont au volant de leur voiture et puis les deux roues en général. Je voudrais qu'on écoute un premier message, celui de Cindy.
Alors moi, je suis beaucoup pour. Bah, j'estime qu'à partir du moment où on a un véhicule dans les mains qui va à une certaine puissance, on devrait prouver qu'on peut le maîtriser et qu'on connaît la route. Bah, les stops, déjà, ça c'est sûr qu'ils font pas, les céder le passage non plus. Les passages piétons, bah, si on a mal à traverser, on est à deux doigts de se faire renverser. Donc, c'est pas terrible, quoi. Franchement, les trottinettes électriques, c'est les pires. Les vélos, on va dire, ça va être vache ce que je vais dire, mais ils roulent aussi mal en électrique qu'en normal. Donc, voilà. Mais on a l'habitude de croiser des vélos, mais les trottes électriques, on a moins l'habitude. Et c'est vrai que c'est une catastrophe, quoi.
On y va, Marc-Édouard. Il faut qu'on parle un petit peu de ce conflit d'usage, parce qu'on l'entend dans le message de Cindy. Hein. C'est clair, pour beaucoup, il y a un conflit entre les différents usagers ou les différentes usagères.
Ouais. Alors en fait, il y a à mon sens plusieurs conflits. Il y a le conflit entre les personnes, effectivement, qui appellent à un ensemble de règles implicites sur la cohabitation dans l'espace public. Donc si on partage un même espace, forcément, on doit partager un ensemble de règles. Et quand on ne va pas à la même vitesse, hein, il y a une personne qui mentionnait la vitesse, c'est toujours très difficile puisqu'on n'a pas la même perception de son environnement direct. Et puis, avant d'être des conflits d'usage entre personnes, c'est souvent des conflits d'infrastructures, dans le sens où les infrastructures ne sont pas nécessairement prêtes aujourd'hui pour accueillir cette diversification des modes de transport. Et là, il y a probablement un sujet important sur lequel agir.
Alors justement, on va en reparler tout à l'heure. On a au téléphone Jean-Pierre qui est avec nous, au bout du fil donc, de votre 079 844 0077. Jean-Pierre qui va nous donner son avis, j'imagine.
Eh bien, moi, je dis qu'en ce qui concerne les cyclistes, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, car ceux qui sont motorisés considèrent le fait comme une aide et sont, sauf exception, respectueux des règles de circulation. Alors, en ce qui concerne les trottinettes, la chose est différente, hein, car la plupart des pilotes font des espaces réservés aux piétons, des pistes que j'appellerais arrêt de slalom, en oubliant qu'autrefois ces engins ne fonctionnaient qu'à la seule force des mollets. Les systèmes de sécurité dans ce cas sont inefficaces, les chocs lourds de conséquences pour le conducteur qui roule, il faut le savoir, en fait, on l'a constaté presque toujours sans protection. Et si le percuté est une personne physique, les dégâts sont donc multipliés par deux. Une formation est-elle suffisante et quels seront par la suite les moyens de contrôle? Là est la grande question, à laquelle peut-être il y aura une réponse dans l'émission d'aujourd'hui.
Merci de nous refiler la patate chaude, Jean-Pierre. Effectivement, c'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire dans cette émission, vous d'abord.
Vous d'abord. La parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Et dernière ligne droite, donc, pour ce vous d'abord, consacré à un permis ou pas pour les trottinettes et vélos électriques.
On va finir par un téléphone. On a Francis qui est au bout du fil, qui va nous donner son avis.
Clairement non. Pour moi, c'est un peu l'arbre qui prétend cacher la forêt et ce n'est pas s'attaquer aux causes réelles du danger ou des accidents qui effectivement sont en augmentation pour les deux roues, les véhicules électriques et les trottinettes. Ce ne sont pas, à mon avis, des démarches administratives supplémentaires ou des nouvelles barrières à la mobilité douce qui vont améliorer les choses, d'autant plus que, étant cycliste moi-même, également conducteur automobile, je me rends compte que, sur la route, la majorité des cyclistes ou des usagers de trottinettes électriques ne sont pas des gamins qui n'ont pas de permis. Ce sont pour la plupart des jeunes adultes ou des adultes déjà d'un âge certain, peut-être comme moi, qui ont déjà leur permis et qui utilisent souvent ces moyens de transport alternatifs pour le dernier kilomètre ou les 2-3 derniers kilomètres qu'ils doivent faire dans un milieu urbain souvent saturé par les voitures. Pour moi, mettre un permis, ce n'est pas la solution aux problèmes rencontrés.
Merci beaucoup, Francis. Merci infiniment. Voilà, on termine par ce message en restant sur ce pourcentage, 70% oui pour des permis, 30% non. Merci Marc-Edouard Joutès d'être venu aujourd'hui.
Merci à vous.
Bonne journée à vous. Bonne journée, Valérie.
Vous d'abord, avec Innoville-Riponne, Rotillon, Valentin et Saint-François, vos parkings au